Est-ce que vous faites des paralysies de rêve?
Ça m'est arrivé une fois, une paralysie du sommeil. Quand j'étais à Montpellier, donc j'avais un appart, c'était un studio en une pièce. Donc j'ai fait un rêve. Alors je me suis réveillé sans être vraiment réveillé. En fait, j'avais les yeux ouverts, mais le rêve continuait. Et donc dans ma paralysie, il y avait un espèce de monstre avec un peu bossu, avec une épaule de côté, qui marchait dans mon appartement, et je savais qu'il me cherchait. Je savais qu'il me cherchait, mais il me voyait pas. Je pense qu'il était aveugle ou voilà. Donc du coup, je bougeais pas, j'étais paralysé, parce que si je bougeais, il allait me voir. Et je me suis réveillé. Je crois que j'ai hurlé. J'avais besoin de d'un coup. Voilà, fallait que ça s'arrête. Et du coup, voilà, ça s'est fini comme ça.
Toi.
En effet, oui, j'ai quelques expériences dans la paralysie du sommeil.
T'en as fait, toi ?
J'en ai fait, oui, une seule, je ne m'en rappelle plus. Je me rappelle de plein de cauchemars là que j'ai en tête. Mais ouais, la paralysie du sommeil, moi, c'était pas vraiment un personnage, c'était plus une sensation très très forte de présence maléfique dans la pièce. Étant donné que je dors très souvent dans une pièce noire complète. Donc en fait, j'étais éveillé, mais il y avait un sentiment absolument dégueulasse de présence maléfique qui m'emplissait le corps et je ne pouvais absolument rien faire contre ça. Et en fait, c'est comme quand on sent qu'on est observé, mais en infiniment pire. C'est absolument horrible. En fait, vu qu'il n'y a physiquement personne, ça peut venir de n'importe où et du coup, ça m'a un peu paralysé. Je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais juste que c'était absolument horrible.
Voilà. Alors j'étais dans mon lit, j'étais enfant ou jeune adolescent, ça se dit pas jeune adulte ou enfant, et je suis réveillé, parfaitement réveillé, mais comme dans un rêve, et tournant ma tête légèrement sur le côté, je vois sur mon bureau qui est en face du lit, devant la porte, je vois un bureau avec mon ordinateur et dessus une chaise, pas sur l'ordinateur, à côté du bureau. Et là il y a un bonhomme en stick, voyez-vous, un peu comme dans les jeux vidéo quand sur jeux.fr à l'époque où c'était autorisé.
Un stickman,
voilà, c'est ça. Et qui avait une tête semblable à la lune, plus blanche mais brillante comme la lune. Comme vous voyez, il y a des petites lampes de chevet ou quoi qui ressemblent à la lune, c'était à peu près ça. Avec des yeux et une bouche, mais comme le corps, c'est-à-dire juste un trait de feutre, pas trop épais mais pas trop fin non plus. Vraiment comme ça, qui était sur mon ordinateur, sans lumière bleue de l'ordinateur, c'était vraiment très, très particulier, il y avait juste la personne qui faisait comme ça, et qui tourne la tête vers moi, donc elle tourne la tête du côté droit, moi j'ai du côté gauche, elle me regarde dans les yeux, et je ne peux rien faire, je suis à la fois terrorisé, pas trop, je sais pas ce qui se passe, et je ne sais plus du tout comment ça se termine. Merci à tous.
Et j'ajouterais que c'est les rêves lucides comme ça, moi en fait, je suis un peu du genre à pas ne pas y croire, mais tant que je l'ai pas vécu, bon, bah, je me dis... Ça se trouve juste la personne dormait et a rêvé qu'elle était paralysée, mais en fait j'avais du mal à imaginer que tu étais vraiment réveillé, conscient d'être réveillé, mais dans un rêve. Moi j'y croyais pas tellement à ça, et quand ça m'est arrivé, j'avoue que ça m'a fait bizarre.
Ouais. Tu comprends mon stickman ?
Oui, je comprends.
Voilà, tu commences. Ouais.
Est-ce qu'à chaque fois les paralysies des sommeils, elles sont vraiment terrifiantes ou pas ? Ou ça peut être des bons trucs ?
Non, c'est jamais très bien. En fait, paralysé, je pense que si tu rentres dans l'état de paralysie du sommeil, c'est que il y a un paradoxe dans le cerveau qui fait que tu es dans un semi-état de conscience et de rêve, et c'est ça qui cause le cerveau de paniquer, je pense. Donc je suis pas sûr qu'il puisse y avoir des paralysies bienveillantes, quoi. En tout cas, je suis moins informé.
Le fait de juste vouloir bouger et ne pas pouvoir bouger, je pense que ça, déjà, c'est terrifiant. Juste que le cerveau envoie une info et que le corps ne réagisse pas, c'est le premier truc qui te... Ça, voilà, ça fait peur.
Tu me racontes un rêve ?
En fait, j'étais en train de rêver que il y avait ma cousine, en fait, qu'on avait fait macérer pendant 3 semaines. Et en fait, après, On avait coupé une vache en deux et on avait mis ma cousine au milieu. C'était la marinade pour le bœuf, en fait. C'est bien, non, comme rêve. Donc, c'était hyper intéressant.
Et ça veut dire quoi sur toi ?
Mais c'était pas un truc gore, en fait. C'est ça qui est drôle. Pas forcément bon signe, mais c'était pas hyper gore, en fait. Mais là, par contre, j'ai fait un rêve où c'est la première fois que je rêvais d'une autre époque. Et en fait, on dit quand on rêve d'une autre époque, c'est que c'est nos vies antérieures. Donc, c'était au moment des cow-boys et des Indiens. Et en fait, non, il y avait une tribu, en fait. Et c'était comme des... c'était une tribu qui combattait genre des cow-boys, quoi. Mais c'était pas les vrais cow-boys des westerns, mais... Et donc, en fait, ils combattent. Et le matin, quand on se réveille, il y a une famille qui ouvre la porte d'un hôtel et qui voit tous les guerriers de la tribu qui ont été tués. Et on découvre ça. Et ça m'a ramené... En fait, j'ai réfléchi que si c'est une vie antérieure, j'avais eu une expérience quand j'étais partie à Vancouver, où j'étais arrivée dans les forêts des Premières Nations. Et en fait, à ce moment-là, j'avais vu des arbres qui étaient millénaires et je me suis mise à trembler. J'arrivais pas à me contrôler et à pleurer.
Est-ce que c'est lié à ton chemin de vie ?
Oui, en fait, ça peut montrer qu'en fait, quand il y a un conflit avec des guerriers, etc., c'est que tu as un conflit que j'ai en moi entre des parties qui sont respectueuses des traditions, de la nature et des parties conquérantes, les cow-boys. Donc, en fait, c'est mon couple intérieur qui est là pour se ressourcer, se reposer en famille. Mais mon enfant intérieur découvre des parties combattantes, donc agressives, tuées et refoulées, qui sont en moi. Donc, ça veut dire que j'ai les deux côtés, le respect de la nature et la partie agressive. Puisqu'en fait, dès qu'on fait un rêve, il faut toujours ramener à soi pour essayer de comprendre les parties qu'on a en nous.
En fait, ce qui me plaît le plus, c'est ce que je rêve, ce que je vais pouvoir en faire derrière. Donc, quand c'est une matière où vraiment, je vois pas trop comment je peux l'interpréter, etc. Je suis un peu déçu. Et souvent, pendant que je rêve, j'ai des périodes où je suis conscient de ce que je rêve. Et des fois, par exemple, je sais pas, je vais rêver de choses, par exemple, d'un déluge, encore une fois, des questions qui commençaient un peu à me travailler. Et tout d'un coup, je vois les protagonistes de la question et du problème qui apparaissent dans le rêve et que j'ai un peu conscience pendant que je rêve de ça. Je me dis, génial. Les sujets un peu existentiaux, compliqués auxquels je suis confronté en ce moment, ils émergent dans le rêve, donc ça me donne une prise pour pouvoir les interpréter et peut-être pour aussi comprendre des choses que jusque-là étaient passées inaperçues. Plutôt les deux émotions que j'ai en général, c'est soit des rêves angoissants ou qui vont jusqu'à la peur, soit c'est des rêves où je me sens très bien et je sens que c'est vraiment une sensation très agréable. J'en ai fait un au Chili qui m'a apporté beaucoup de... Souvent, que ce soit positif ou négatif, c'est une sensation parfois qui déborde pendant la journée et qui peut aussi t'embaumer comme ça émotionnellement tout le long de la journée, même plusieurs jours après. Et il y en avait un qui m'avait beaucoup marqué. Dans un premier temps, je montais en haut d'une colline et tout autour de moi, il y avait des fleuves qui, comme ça, s'enlaçaient autour de la colline. Et je monte tout en haut et je regarde à l'intérieur des fleuves, qui sont immenses comme des lacs. Je regarde à l'intérieur des fleuves, tout d'un coup je vois un peu des choses qui scintillent dans le fleuve en avançant. Et donc je focalise, je suis du regard et je vois un immense serpent. Avec plein d'écailles qui brillent et plein aussi de petits fils qui nagent dans le fleuve. Et je trouve ça absolument magnifique. Et en le suivant évoluer dans le lac, je vois qu'il rejoint tout d'un coup 2, 3, 4, 5 et plein de serpents qui nagent ensemble un peu de manière parallèle. Et c'est un peu, voilà, comme un peu un phénomène extraordinaire. Et c'est un peu une sensation d'émerveillement. Et ensuite, je descends la colline et j'arrive vers une espèce de petite maisonnette, un peu une sorte de hutte, dans laquelle il y a des gens qui sont là, qui discutent, qui sont sympathiques. Et je vois sur un coin de table, moi je suis un peu à l'écart de la discussion, je vois un coin de table, un muffin. Une sorte des sortes de petits gâteaux faits maison, tu vois, juste comme ça. Et un peu comme s'ils scintillaient presque. Et à cette époque, j'avais des problèmes de santé, juste comme ça. Et pendant la rêve, je me dis, mais en fait, si je mange manger ce muffin, ça veut dire que ça va me soigner. Il y a un truc un peu qui se crée. Et je me rappelle de manger le muffin et de me sentir soigné. Comme si t'as un bien-être où ça y est, tu sauves que t'as été soigné. Et ça, en me réveillant, j'ai été pendant plusieurs jours, ça m'a... je me sentais mieux, un peu comme une sensation de guérison.
Mais en fait, alors par contre, je me suis réveillée pile, ça m'a réveillée, parce que ça m'a vraiment perturbée, mais pas comme un cauchemar, ça m'a réveillée quoi. Et j'ai regardé l'heure, il était 5h55. Et en fait, 5 en angéologie, c'est l'ange de la rectification des erreurs.
5h55.
Et on était en plein dans Imamia, l'ange 52, qui est aussi l'autre ange de la rectification des erreurs. Et donc, qu'est-ce que ça voulait pas dire ? En fait, ça m'a ramené à des choses, des mémoires de mes vies antérieures ou de mon passé, qui étaient effectivement combatives, et à justement les nettoyer. Donc ramener à moi et nettoyer cette partie pour plus me ramener à la source et me ressourcer. Et j'ai refait un autre rêve le lendemain, où en fait, là, c'était pas dans des vies antérieures, mais c'était ce qui se passait, des choses qui se sont passées dans mon enfance, etc., et qui étaient plus en conflit. Et qu'en fait, pareil, j'avais l'impression d'être en train de les régler. Et je me suis réveillée à nouveau parce que ça m'a perturbée. Et il était encore 5h55. Et c'était juste le lendemain de ce rêve. Ça m'a interpellée parce que ça m'a ramenée à la sensation que j'ai eue avec les arbres des Premières Nations. Et puis aussi, si c'est réellement un rêve de vie antérieure, c'est rare.
Bah, quand j'étais, ça me rappelle un cauchemar que je faisais, je crois quasiment tous les soirs quand j'étais petit. C'est que je m'endormais, j'entendais le battement de mon cœur, ou je sais pas exactement, et ça se transformait en un rêve où c'était un monstre qui me suivait, qui faisait des pas, et chaque pas se rapprochait de moi. Je savais que chaque pas se rapprochait de moi, sans savoir où il est. Et voilà, ça me rappelle.
C'est monstrueux.
Ouais, c'est pas mal, hein.
Quand je suis dit, j'avais fait un rêve abominable, j'étais allé voir une exposition sur Toutankhamon. Tu sais, il y avait la momie. Tu vois la momie de Toutankhamon, mais sans les bandes. Ça, c'est un truc qui me faisait énormément peur petit. Et j'avais fait. À l'époque, j'habitais au studio en bas chez moi. Parce que ma soeur venait de naître et c'était galère, tu vois, pour la place et tout. Et on était en lit superposé. Mais moi, j'étais en bas, elle était dans le landau. Et bon, bref. Je pose le décor, tu vois. Et en fait, attention, c'est très particulier. La momie, tant qu'avant, je la voyais. Et je dormais, tu vois. Et j'imaginais qu'elle poussait dans mon lit. Mais alors, comme une plante. C'est-à-dire qu'elle est comme ça, tout proportionnel, et d'un coup elle augmente, et elle fait ma taille après. Et ça me terrorisait. N'empêche, moi j'avais vu un truc qui est assez intéressant. Je sais pas si c'est vrai ou pas, donc j'en sais rien, je mets mon petit veto, j'ai vu ça il y a longtemps. Et en fait, c'est que les rêves, c'était très pratique dans la vie. Parce que ça permet d'anticiper des choses, ou de... Pas en mode de voyance, rien à voir avec ça. Ça permet d'anticiper, ou de t'entraîner à quelque chose qui peut arriver. Je sais pas si je m'explique comme il faut, tu vois. Non, mais par exemple, tu fais un rêve où, mettons, ta maison brûle. Je dis n'importe quoi, là, je prends le couille. Ta maison brûle parce que t'as pas éteint ton truc de gaz ou quoi, tu vois.
Yes.
Et ben, tant t'as jamais de problème avec ça. Et tu fais ce rêve-là un jour, et inconsciemment, dans ta vie tous les jours, tu vas toujours vérifier ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut te servir d'entraînement, quoi, en gros. Mais inconscient total, mais qui te forme. Par exemple, si tu fais beaucoup de rêves, je dis n'importe quoi, où il y a des morts, où il y a des gens qui meurent que tu connais et tout, ben tant t'encaisses mieux. Je sais pas si c'est vrai. Ça, c'est un exemple extrême, ça, que je donne, mais apparemment, il y aurait une corrélation aussi.
Alors moi, j'ai une vision assez morbide. C'est que, pour moi, quand je me réveille et que j'ai l'impression d'avoir fait aucun rêve, je sais pas si vous voyez, mais genre la sensation de trou noir après le réveil, j'ai l'impression de mourir quelque part. Ou que c'est lié à la mort, ou que bah, y a rien. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois, mais j'ai l'impression que vraiment je cesse de vivre parfois quand je dors. Parce que enfin, quand je ne rêve pas, c'est comme si j'avais passé la nuit comme ça, j'avais perdu 8 heures d'affilée, bam, de trou noir.
J'étais à Valparaíso et je me rappelle que il y a des militaires ou des flics ou des militaires qui commencent un peu à, on va dire, à prendre contrôle du port et de la ville Et donc, moi, avec d'autres militants, j'imagine, on s'enfonce dans les collines, là où c'est les quartiers populaires. Et donc, on essaie de se mettre en hauteur pour pouvoir se mettre en sécurité. Et on arrive près d'une sorte de bâtiment, un peu comme une sorte d'ancienne école, quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'intuition, j'ai la sensation que les militaires vont venir jusqu'ici. Et donc, je quitte d'autres personnes, je crois, qui étaient là. Et je vais me cacher dans une espèce de petite colline, encore un peu au-dessus de cette école qui est déjà sur une colline, où je suis sous un arbre, et je suis comme ça un peu au-dessus de la colline, allongé par terre, et je scrute caché l'arrivée des militaires qui en effet arrivent au bâtiment. Je ne sais pas si eux-mêmes, ils arrêtent des gens, enfin, ils trafiquent des trucs, et tout d'un coup... c'est comme si je me dédouble et je me vois un peu à la troisième personne. Et je vois un militaire qui marche doucement derrière moi et qui me braque sa mitraillette sur le crâne et qui me tire des balles dans la tête et qui s'en va. Et le rêve se finit comme ça. Je ne sais plus si je me réveille à ce moment-là.
Moi, j'ai fait des rêves qui se répètent sans cesse, que j'ai depuis l'enfance. Et j'en ai un, c'est un rêve qui dure quelques secondes. C'est une image fixe, mais un peu animée. Et il faut imaginer une espèce de monticule de terre, comme une montée. Comme, mettons, la guerre de 14, les gars qui sortent de la tranchée, tu vois, comme ça. Comme ça. Et avec un petit passage où il y a une espèce de porche qui est vraiment seule, comme ça, là, en bois. Un peu comme dans les temples asiatiques, vous voyez, vraiment juste le porche, comme ça, tac, ça. Et il y a quatre personnages, des couleurs, alors je pourrais pas dire, c'est un peu comme les Power Rangers. Et des personnes qui sont définies, et c'est dur à imaginer, je sais pas si c'est un habit ou si c'est eux-mêmes. Ils sont là, et ça bouge un peu, tu vois, ils se préparent à passer par le chemin, je sais pas, voilà. Et ça, depuis que je suis enfant, ça revient.
C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de cauchemar, et puis récemment, j'en ai fait quelques-uns, assez étranges, dont un dont je me rappelle très très bien. C'était il y a 5 jours. Et c'était... Je pense qu'il y avait tout un background à ce rêve, mais je me rappelle que de la fin. Il y avait un proto-rêve, quoi, si on peut dire. Et je me rappelle que de la fin, où c'était une jeune femme, je dirais 30 ans, très, très grande, assez élancée, et qui était déguisée dans une matière un peu froufrou. J'ai pas le nom de cette matière, mais c'est un peu cette matière de papier très, très fin, craft qu'on utilise pour faire des tutus, la tulle, très bien, de la tulle, du coup, de la tulle, et qui en avait de manière un peu à créer une crinière, autour c'est de son... Et du coup, elle était déguisée, et il y avait un peu cette silhouette-là, et que je voyais très bien, et elle avait une espèce de laisse autour de son cou, elle était tenue par quelqu'un. Et je vois soudainement qu'il tourne la tête, qu'il me regarde et qu'il crie de manière un peu déconcertante. Du coup, voilà, le rêve s'est terminé dans une espèce de course-poursuite effrénée et je courais de toutes mes forces pour fuir cette horrible silhouette de Slenderman féminine déguisée en je ne sais quoi, en lion.
Toi aussi, t'as eu la silhouette Slenderman un peu. Alors.
Oui, oui.
Ça m'étonne. Long, fin, à part la lune, c'est tout.
C'est marrant qu'on ait tous ce truc en commun, la silhouette noire, vraiment.
C'est ce qui nous unit, finalement.
C'est vrai. Est-ce qu'il y a pas une autour de ces tables.
C'est ça. Hein. Parce qu'avant, c'est vrai qu'il y avait toute une période pendant l'adolescence où il n'y avait aucun cauchemar. Et c'était que les cauchemars d'antan, quoi, que tu te rappelais. Où j'étais dans un casier et qu'il y avait le chat botté de taille humaine qui me poursuivait et qui ouvrait chaque casier de manière extrêmement puissante. Ça, c'est horrible. Je m'en souviendrai toute ma vie. Qui me cherchait dans un appart un petit peu... New-Yorkais, dernier étage. Et du coup, bon, c'est l'anecdote est horrible, mais du coup, c'était horrible.
Moi, j'avoue que quand je m'endors, j'ai un peu hâte de passer la journée suivante. Et du coup, je pense que je me souviens de mes rêves, mais que j'oublie vite parce que je n'accorde pas une grande importance à ça. Et bon, c'est... Du coup, voilà, quand je m'endors, j'ai un peu hâte de la journée suivante. Donc, j'ai pas les rêves.
C'est un bonus ou malus. C'est un plus bonus ou malus dans la soirée, voilà. Moi aussi, je me languis de me réveiller, puis entre-temps, t'as un petit voyage qui se fait, voilà. Non, mais je t'en fous, tu rêves, tu te réveilles, t'es content ou t'es un peu. Oh là là, et puis ça, voilà, ça part après.
J'étais avec une amie, c'était une amie de primaire, et en fait j'ai fait un rêve. On était dans une chambre toutes les deux, et on allait s'endormir, mais on savait que si on s'endormait, on allait se réveiller dans la forêt noire. Du coup, on avait un peu peur de s'endormir, mais d'un côté, c'est quand même arrivé, donc on s'est endormi et on s'est réveillé dans la forêt noire. En fait, je me réveille, il y avait un chemin dans la forêt, dans la campagne, avec des buissons autour. Et je me rappelle de marcher, en fait, et de découvrir petit à petit ce qui se passait. Je me disais, bon, bah ça va, la forêt noire, c'est pas si pire que ça, en fait. En fait, tout était normal, mais juste, il y avait certains petits événements qui laissaient paraître qu'il y avait quelque chose d'un peu bizarre, quoi. Par exemple, je marchais petit à petit, et puis d'un coup, je vois un squelette qui court à travers les buissons. Je continue de marcher, je me dis, bon, voilà. Puis d'un coup, je vois une corde. Il y avait une grande corde de bateau qui était à côté du chemin, en fait, qui d'un coup s'élève et monte dans le ciel. Et puis elle disparaît dans les... disparaît. Alors je continue de marcher, et puis je me dis, bon, on verra. Et là, je vois une famille, une petite famille qui arrive à vélo. Donc il y avait une femme avec deux enfants, je crois. Il y avait une autre personne. Ils arrivent à vélo petit à petit, alors je leur dis bonjour. Enfin, je suis polie, je leur dis bonjour. Et eux, ils me répondent bonjour, et puis ils font un peu la discute. Ils me disent, bon alors, qu'est-ce que tu fais là? Je leur dis, bah, je me balade. Ils me disent, ah d'accord, etc. Et tout se passe bien. Et au moment où ils posent le pied sur la pédale du vélo pour repartir, ils disparaissent. Et je comprends qu'il y a quelque chose d'un peu étrange, mais je continue et j'arrive devant un garage. Il y avait un garage avec des vieilles voitures, il y avait plein de choses rouillées, il y avait des pneus, des outils de mécanique, il y avait plein de choses. Du coup, je descends prudemment. Et j'observe un peu dans ce garage ce qu'il y a. Donc voilà, il y a toutes ces choses rouillées. Et au milieu, il y a un vase. Un beau vase avec une forme un peu de poire et puis des couleurs très vives. Je me rappelle encore... C'était bleu avec des formes jaunes, des ronds, oranges, des trucs vraiment qui... Enfin, des couleurs pétantes, quoi. Et je me dis, waouh, il est beau ce vase et tout. Je me rapproche, mais je sens qu'il y a, il y a une tension. Je sais pas, il y a quelque chose qui d'étrange, mais je sais pas vraiment ce qui se passe. Et je m'approche, et en fait, je regarde le vase. J'ai l'impression que le vase me fixe. C'est une impression bizarre, mais j'ai vraiment cette certitude que le vase est en train de me fixer. Je m'approche, et là, je bouge plus. En fait, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. D'un coup, le vase, il se déplie comme un objet vivant, quelque chose de bizarre. Il se déplie et il laisse paraître des milliers de petites pattes. Des milliers de pattes qui se déplient comme ça. Il se lève en poussant un cri horrible. En fait, il se lève et il commence à me courir après en me hurlant. Et c'est monstrueux. Alors moi, du coup, je panique et je commence à hurler, à courir sur le retour. Et je cours et puis... ça s'arrête. Je me réveille. Est-ce que vous pouvez reconnaître facilement les gens dans vos rêves?
Sur 15 personnes dans mon rêve, j'en retiens 3.
T'as la liste.
C'est-à-dire, si je fais un truc avec 5 personnes, ou 10 personnes, ou 20 personnes, on va dire, voilà, 15 c'est bien. Pour 15 personnes qu'il y a dans mon rêve en même temps, je me rappelle 2, 3, 4. Les autres, c'est des gens que j'ai toujours connus, mais ils n'existent pas, quoi. Tu vois.
Et ouais, mais je pense que les visages aussi dans les rêves, ils sont un peu déformés. Et même si c'est pas exactement le même visage, il y a toujours cette sensation-là. De la personne que tu as en face de toi. Donc c'est ça aussi, c'est assez intéressant.
Est-ce qu'on peut parler aussi de l'impact de l'environnement par rapport au rêve?
Bien sûr.
Parce que moi j'ai fait un rêve un jour qui avait aucun sens. J'avais un rêve normal, tu vois, comme ça, normal. Je sais plus ce que je faisais, balader ou quoi. Et d'un coup, paf, je me fais guillotiner, en fait. D'un coup, et je me réveille. Et en fait, j'avais mon affiche qui était sur mon lit, qui était tombée sur mon cou. Je me suis réveillé, était sur mon cou l'affiche. Tu vois? Et donc j'ai eu une sensation de. On m'a mis à l'échafaud, tout machin, on m'a coupé la tête. Et ça, pour moi, ça durait longtemps dans le rêve, mais en vrai, ça a dû durer 2 secondes parce qu'en fait, il y a un truc qui m'est tombé sur le cou. Et en me réveillant, j'ai fait waouh, c'est fou.
Je crois que j'avais vu, il y a une légende qui circule sur l'internet connecté, qui est un mec qui était dans le coma.
Antoine ?
Ouais. Et en fait, c'était un rêve ou un coma, je sais plus. Et en fait, il a carrément rêvé qu'il avait une vie.
Il fait le dupe, il en a parlé.
Ah, il a, j'ai pas vu la vidéo de Feldup. Ouais, c'est ça, marié avec des enfants et tout. Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte que la lampe de chevet avait une forme bizarre. Et il s'est réveillé. Et en fait, tout ce qu'il avait vécu, donc toute une vie entière, C'était juste un rêve, quoi.
Et plus fou que ça, c'est que dans sa vie de tous les jours, parfois dans sa vision périphérique, il voit ses gosses, qu'il a jamais eu du coup. C'est un cauchemar sans faire.
Bah, un vrai cauchemar, oui.
Et comment tu fais pour t'en rappeler tous les jours ? Est-ce que t'as une technique ou pas ?
Alors, je m'en rappelle pas forcément tous les jours, mais il y a des rêves qui marquent plus que d'autres. Et c'est vrai que parfois on oublie, donc il faut y penser tout de suite très fort le matin en se réveillant. Et parce que si tu pars faire autre chose, tu te lèves, etc., tu vas zapper complètement. Et pourtant, tu te dis je m'en rappellerai, mais tu ne te rappelleras pas. Et quand je fais un rêve qui me marque vraiment au milieu de la nuit, qui me réveille, je me donne des mots-clés pour essayer de m'en rappeler le lendemain, et après, je refais l'histoire.
Mais quand tu te réveilles, tu les marques quand même directement ? Dans un cahier ou quoi ?
Normalement, c'est ce qu'il faudrait faire, mais moi, en fait, je me dis, si je marque, etc., je ne vais pas me rendormir. Donc, j'essaye, avec des mots-clés, de m'en rappeler. Mais il y a des matins où je me réveille, je ne me rappelle pas vraiment de quoi j'ai rêvé ou quelques trucs. Et parfois, je suis capable de raconter l'histoire entière comme un roman ou un film.
Toi, tu n'as pas de carnet secret de rêve ?
Alors non, j'ai pas de carnet secret de rêve. Je fais très peu de cauchemars. Je fais beaucoup de rêves, beaucoup de trucs neutres. Voilà, il y a que des trucs agaçants, genre des pots qui se cassent. Ça me le fait tout le temps. Je fais des rêves où il y a des pots qui tombent. Et non, et je rembobine mon rêve à chaque fois jusqu'à ce qu'on puisse continuer, que ça arrête de tomber. Tu vois. Je suis comme ça là. Et tant que ça tombe, je re-rembobine. Et après ça s'arrête et je peux continuer mon rêve. Voilà.
Mais ça marche, ouais. T'arrives à le contrôler.
J'arrive toujours à faire ce que je veux dans mes rêves. Parfois c'est long, parfois il faut refaire plusieurs fois le même truc. Mais j'arrive toujours. Et jamais de cauchemar.
Sacré mental.
Je suis costaud.
Toi, tu les contrôles ?
Moi, c'était l'inverse. Je crois que tu peux. Enfin, moi, j'arrive à contrôler mes rêves que quand c'est vraiment un peu avant que tu t'endormes, genre un peu somnolent, où t'as plus trop conscience. Enfin, c'est déjà un rêve loin, quoi. Mais je sais que j'avais totalement l'inverse. C'est-à-dire que ça se passait bien et tout. Genre, je sais pas, je commençais un truc, n'importe quoi. Et je me disais, ah oui, mais là, par exemple, vu que je suis dans un rêve, si je dois me mettre à courir, bah, je vais pas arriver à courir. Ou alors, ah oui, non, mais là, je suis dans un rêve, donc en fait, ça va... Tu sais, quand ça commence à s'effondrer sous tes pieds, et du coup, tu peux pas rester droit. Et dès que je me disais ça, bah, ça se passait, et c'était super désagréable.
Ah, tu contrôlais ton propre malheur.
Mais parce que je pense que quand t'es en train de t'endormir, t'as ce truc-là où, bah, du coup, tu te laisses complètement aller et tout. Non, mais sans que ce soit vraiment... Enfin, je sais pas comment dire. Et si tu recommences à être conscient du fait que t'es dans ce stade un peu fragile et tout, bah, directement, c'est n'importe quoi, et un peu, t'as le rêve qui s'écroule... Voilà.
J'ai un conseil à tous ceux. Alors en fait, moi, il y a des fois. j'ai un truc depuis enfant qui marche très bien. Dès que je sens qu'il y a un cauchemar qui peut arriver, parce que je dis que je fais plus de cauchemar, mais parfois je sens que ça peut partir. Je pense toujours à l'image. Vous vous rappelez de la Wii Mario Bros ? J'ai l'image où tu as Mario qui, avec Luigi qui marche et qui saute. Et dès que j'ai envie de faire un cauchemar, enfin que j'ai envie que je sens que ça arrive, je m'imagine Mario et Luigi qui font leur truc, qui font un niveau, genre. Et ça m'empêche d'avoir des rêves. Depuis enfant, j'ai pas changé de technique, mais ça marche.
Mais tu le fais à quel moment ? Avant de t'endormir ?
Genre, tu sais, quand tu es, comme elle disait Anna, quand tu es nébuleux, que tu dors, que tu commences à arriver au rêve, là, et que je sens que ça part en couille, et que j'arrive plus à le maîtriser, j'imagine Mario et Luigi qui sont en train de faire leur niveau, tranquillou bilou, tu vois. Ça, voilà. Et ça marche toujours.
C'est marrant, ça me rappelle une astuce. Je crois que c'était une vidéo de Dr. Nozman sur YouTube ou un truc comme ça, qui expliquait que pour faire un rêve lucide, il fallait regarder sa main le plus souvent possible dans la journée. Et en fait, tu regardes ta main le plus de fois possible dans tes journées. Et il y a un moment où tu vas rêver de ce moment et tu vas dire « je regardais ma main car dans ton rêve, tu vas réaliser que tu regardais ta main à ce moment-là. » Et du coup... à ce moment-là, si ça t'arrive dans ton rêve, tu peux faire le lien avec la réalité et te dire que t'es dans un rêve. Mais j'ai jamais fait ça et je sais pas du tout si ça marche, mais c'est une théorie.
C'est réel. Moi, je pense que ça marche. On va partir sur des termes très scientifiques que je vais inventer, mais je pense que c'est du conditionnement cérébral et qui marche fortement. Et à force de se conditionner inconsciemment à faire ça, est-ce qu'on peut appeler ça un témoin onirique ? Est-ce qu'on peut inventer le terme, s'il vous plaît ? Et récemment, j'ai eu la bonne idée, il y a un an, j'ai essayé de tenir un journal de rêve qui est à côté de mon lit. Donc du coup, grâce à ça, je me souviens de quelques rêves. Et je conseille de faire ça à tout un chacun, car c'est vraiment assez cool. Du coup, on se rappelle des rêves qu'on a faits. Par contre, il faut être assez réactif dès le réveil. Il faut direct les noter, parce que ça part à une vitesse absolument folle, comme des petits pains.